et plus. Soyez à l'écoute tous les dimanches à 20h au 88.3 FM ou sur profilprog.com.
Musique sans frontières, c'est du blues, du rock, du country américain, ainsi que des musiques variées.
Musique sans frontières avec Michel Giroux, c'est tous les samedis à 19h sur les ondes de CKIA FM 88.3, la radio urbaine à Québec.
Coupure budgétaire, mise à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité?
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public? Des solutions existent.
Nous sommes le Syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission D'un autre angle tous les vendredis à 11h sur les ondes de CKIA FM.
Bonjour, ici Bruno Laberge pour CKIA FM et voici votre bulletin d'information du vendredi 16 février 2024. Québec veut permettre à un plus grand nombre de Québécois de vieillir à la maison. Pour cette raison, le gouvernement lance une formation plus courte et payée pour les préposés au soutien à domicile. La nouvelle mesure s'inscrit dans la foulée des efforts visant à diminuer le recours aux agences privées pour combler ses besoins de personnel. En plus de bénéficier d'une formation accélérée, les candidats inscrits au programme bénéficieront d'une aide financière de 12 000 pendant qu'ils seront à l'école, à la condition de s'engager à travailler au moins 6 mois dans le réseau de la santé québécois à la fin de leur formation. Les futurs préposés seront assurés d'un emploi, et ce, dès l'obtention de leur attestation, ajoute le ministère de la Santé. Le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, a inauguré la semaine dernière l'aire ouverte de Québec pour les jeunes de 12 à 25 ans, mise en place par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux. Sur place, les jeunes peuvent recevoir des services en santé mentale et être accompagnés pour obtenir du soutien d'ordre relationnel, personnel ou familial. Partout où le programme est offert, il fait ses preuves. Ça nous permettra de joindre encore plus de jeunes et de leur offrir des services qui leur sont précisément destinés, et ce, sans rendez-vous, le tout dans des lieux qui ont été conçus pour eux et avec eux, souligne le ministre Carman. L'aire ouverte de Québec est située au 260 boulevard Langelier, à Québec. La Ville de Québec invite les citoyens à assister à la toute première présentation des contes à passer le temps en tournée près de chez vous. L'organisme La Vierge Folle offrira 9 représentations gratuites de ses célèbres contes dans 5 arrondissements, et ce, du 18 février au 3 mars. Devant le fort engouement des citoyens pour les contes à passer le temps, nous avons mandaté La Vierge Folle pour une tournée spéciale, a mentionné la responsable de la culture au comité exécutif de la Ville de Québec, Mme Catherine Vallière-Roland. Pour l'occasion, 4 contes drôles et touchants ont été sélectionnés. Contre mauvaise fortune, bon cœur, Pas de cadeau pour Marie-Lou, Le cœur en tutelle et Entre le bœuf et l'âne gris. Les premières représentations sont ce dimanche à 11h et à 15h au Moulin des Jésuites, au 7960 boulevard Henri Bourassa. Pour information, on écrit à La Vierge Folle tout en un mot, à commercial, gmail.com. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, passez une agréable journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Simplicité. Notre vie est comme la Confédération germanique, faite de petits États aux frontières perpétuellement fluctuantes, de sorte que même un Allemand, en un instant donné, ne saurait bien vous dire de quel en est le tracé. Notre nation elle-même, avec tous ses soi-disant progrès internes, qui, disons-le au passage, sont en réalité tous externes et superficiels, n'est elle aussi qu'une organisation bouffie, impraticable, encombrée de meubles, qui se prend les pieds dans ses propres pièges, ruinée par le luxe et les dépenses insensées, par manque de prévision et faute d'un but digne. Il en va de même pour les millions de foyers que compte ce pays. Le seul remède pour celle-là, comme pour ceux-ci, gît en une stricte économie, une simplicité de vie rigoureuse et plus que spartiate, et des desseins élevés. On vit trop vite. Les hommes pensent qu'il est essentiel que la nation fasse du commerce et exporte de la glace et converse par le truchement d'un télégraphe et se déplace à 30 000 à l'heure, et ils le pensent sans le moindre doute qu'ils aient ou non eux-mêmes besoin de tout ça. Mais savoir si nous devrions vivre comme des babouins ou comme des hommes, voilà qui fait encore débat. Si nous fabriquons pas de traverses dormantes, ni ne forgeons de rails, et si nous ne consacrons pas nos jours et nos nuits à ce labeur, préférant vaquer au bricolage de nos vies pour les améliorer, elles, qui construira alors nos chemins de fer? Et si nos chemins de fer ne se construisent pas, comment arrivons-nous à temps au paradis? Mais si nous restons chez nous pour nous occuper de nos affaires, quels besoins avons-nous besoin d'un chemin de fer? Nous ne prenons pas le chemin de fer, c'est lui qui nous prend.
La cime des arbres, des ombres à la dérive, la nuit aspire le ciel, la lune boit lentement les reflets diamants. Léger, calme, heureux, l'âme en silence chante. Thank you.
Alors, bienvenue en toute simplicité. Aujourd'hui, on va parler de liens. C'était la Saint-Valentin cette semaine, donc le thème des liens, je trouve qu'il est approprié. Puis il y a un livre qui vient d'être publié là, sur le sujet des liens, donc on va parler de ça. J'ai commencé l'émission comme d'habitude avec un extrait de Walden, Henri David Thoreau, qui fait une critique là, du monde moderne. Et à suite de ça, ben justement, Richard Séguin aussi, la pièce Walden tirée de son album Retour à Walden. Dans les choses à souligner, disons, je vous rappelle, j'en avais parlé la semaine dernière, là, dans deux semaines, c'est la fête des semences à l'Université Laval, un événement que j'aime beaucoup, étant moi-même jardinier. Au début du mois de mars, qu'on commence à penser jardin, plantes, même si c'est encore trop tôt. Avec le mois de février qu'on a eu, on se sentait déjà en mars, donc je sais pas ce qui va. Espérons que ça va se poursuivre, mais il n'y a rien de certain. Mais quand même, c'est un bel événement, la fête des semences. C'est dans deux fins de semaine, 2 et 3 mars, au pavillon Desjardins à l'Université Laval. Il y a des conférences vraiment intéressantes. Cette année, l'invité d'honneur, c'est Jean-Martin Fortier, qui, entre autres, est connu là, pour sa ferme là, Les Quatre Temps. Puis, il a écrit aussi un livre sur la culture en hiver, vraiment intéressant, une nouvelle façon de voir le jardinage à l'année, 12 mois par année. Ensuite de ça, je suis allé voir le film Le Successeur, qui est un film assez dur. Je ne sais pas si je vous le recommande, mais c'est un film qui est bien fait. Et ça parle justement de liens qui peuvent être malsains ou l'impact psychologique d'être isolé. Et en tout cas, c'est un film qui est bien fait, mais que j'ai trouvé assez dur. En tout cas, je vous en parle comme ça pour ceux qui s'intéressent. Ensuite de ça, j'ai été voir le spectacle gratuit là, au Grand Théâtre, les Matinées croissants. Et c'était vraiment bon. Maya Barou, ça, il y a des spectacles comme ça gratuits à gauche et à droite pour les simplicitaires. Là, ça peut valoir la peine. Je sais que le prochain est au mois d'avril. Alors, c'était Maya Barou. Et je vais passer une pièce de son CD après ma chronique de revue de presse. Alors, dans les lectures, dans les journaux de cette semaine, on a un article aujourd'hui de José Blanchet sur l'alimentation que j'ai trouvé intéressant. Là, je vais vous en lire quelques extraits. Le titre de l'article, c'est « Devenez cheap gratuitement ». Alors, elle parle de comment économiser sur l'alimentation. Elle parle aussi du site qui est sur du site des Amis de la Terre, là, le comité Sauve ta bouffe. Elle en parle un peu dans son article. Alors, elle dit « Je suis aussi passé au jeûne intermittent depuis quelques années. Il paraît qu'on mange trop. Les médecins n'osent pas le dire, n'osent plus le dire. 38% d'embonpoint et 25% d'obésité au Québec chez les 30 ans et plus. J'économise un tiers d'épicerie avec un repas en moins. Je ne suis pas surprise d'apprendre dans l'essai « La révolution des protéines » du professeur en distribution et politique alimentaire Sylvain Charlebois que d'ici l'année prochaine, plus de 16 millions de Canadiens cesseront d'acheter de la viande ou en mangeront moins, surtout chez les jeunes. Ça aussi, on en parle, là, c'est une façon de limiter, de réduire les émissions, de moins consommer de viande. Ici, on parle même de ne plus en consommer. Elle parle aussi des déchetariens. Les déchetariens, les dumpsters d'hiver et autres glaneurs ont de belles nuits devant eux. 58% de la nourriture produite au Canada serait gaspillée, rapportait Estelle Richard dans pour en finir avec le gaspillage alimentaire en 2021. Les consommateurs seraient responsables de 47 % de ce gaspillage selon une étude datant de 2014. Alors, c'est ça. Il parle aussi de différents trucs, dont vider son frigidaire. On dit, en prenant l'habitude de vider votre frigo et en retardant les courses de 2 jours, vous pourriez financer des vacances familiales. C'est tiré du livre de Vicky Payeur, « Faire plus avec moins ». Alors, bon article sur l'alimentation et la simplicité volontaire dans le Devoir d'aujourd'hui, chronique de José Blanchette. Devenez cheap, par page B8. Il y a une série d'articles intéressants aussi dans le Devoir sur le Vietnam. C'est le journaliste du Devoir, Éric Desrosiers, qui est allé faire un séjour au Vietnam. Vraiment intéressant. Et c'est ça, on dit le Vietnam est un paradis perdu par les humains. C'est la chronique, c'est ça. C'est dans le Devoir de lundi dernier. On parle du né de l'union de la terre et de l'eau. Le delta du Mekong est aujourd'hui menacé de disparition, victime du peu d'attention portée au fonctionnement fragile et complexe de la nature. Premier article d'une série de 4. Alors, c'est une série sur le Vietnam vraiment intéressante et on en parle beaucoup à l'émission. Les changements climatiques, ça a des impacts partout. Et le Vietnam, qui est le delta du Mekong, nourrit 100 millions de personnes en riz. Et on parle de la possibilité que d'ici la fin du siècle, ben ça soit plus ça soit en dessous de l'eau, ça soit inondé. Donc, série d'articles sur le Vietnam que je vous recommande. Dans le Devoir de samedi dernier, l'état du monde, par le sociologue Gérard Bouchard, il présente une liste de 10 problèmes, 10 difficultés dans le monde. Préparez-vous, la liste des noirceurs. La liste des noirceurs est longue, trahissant un monde solidement compromis. Alors, on parle de 10 maux qui affectent le monde actuellement. Un redoutable pouvoir prend forme, parle les magas, les grandes entreprises au niveau de l'Internet. Alors, on dit depuis une vingtaine d'années, avec les avancées d'un capitalisme mondialisé de plus en plus agressif, de nouveaux empires tentaculaires arrogants peuvent désormais tenir tête à des États très puissants et installer des sociétés entières dans la dépendance. La montée des réseaux sociaux, plus largement l'éclatement du monde des communications. Aux États-Unis, la NASA a perdu le monopole de l'exploration spatiale au profit d'entrepreneurs privés. Pour diverses raisons, les démocraties sont en déclin. Les pressions grandissantes de l'immigration jouent dans le même sens. Chez les puissants qui devraient être au front de la bataille pour l'environnement, que voit-on? Trop souvent, l'inaction, du trompe-l'œil, des engagements non tenus, de la mauvaise foi et parfois un incroyable cynisme. La COP28 aux Émirats arabes unis, présidée par un propriétaire pétrolier. Il n'existe guère plus d'autorité dont la voix pour encourager la modération, je n'ose dire la sagesse. L'Organisation des Nations Unies, l'ONU, est devenue dysfonctionnelle. L'Afghanistan, ancien membre du Comité des droits de l'homme, l'Iran, admis au sein de la Commission de la condition de la femme. On sait aussi que l'organisme est rongé par la corruption, infecté par une fourmilière de lobbyistes. Autre particularité du monde présent, les grands témoins, les phares qui étaient Gandhi, Simone Veil, Hannah Arendt, Martin Luther King n'ont pas été remplacés. Le Trumpisme qui a commencé à métastaser se nourrit de tous les dérapages, de toutes les perfidies, de toutes les démissions et frustrations, de toutes les angoisses aussi. Pour être exhaustif, il faudra encore ajouter la résurgence des grands blocs et la menace qu'ils font peser sur la paix, les nombreux actes de terrorisme, la banalisation de la violence, la dissémination des armes nucléaires. Bref, c'est pas très, très joyeux, mais en tout cas, si ça vous intéresse, c'est dans le Devoir de samedi dernier, page B9. Ensuite, dans le Devoir de jeudi aussi, une nouvelle plus locale. Le manque de neige dans les champs inquiète. L'absence de l'isolant naturel dû au climat pourrait tuer des plantes fourragères, selon deux experts. Il faut absolument de la neige avant le prochain grand froid. Ça, tout le monde s'entend là-dessus. Sans ce manteau isolant, certaines plantes sont très vulnérables au gel et au froid, ce qui inquiète grandement deux experts agricoles. Il en faudra plus qu'un peu. Tout le monde souhaite une belle bordée de 20 cm, affirme l'agronome Marie-Pierre Landry. Et pas pour faire du ski ou glisser avec les enfants, mais bien parce que de nombreuses productions agricoles sont à risque, explique cette chargée de projet du Centre d'initiative en agriculture de la région de Coaticook. Alors, c'est une autre. On a un hiver qui est vraiment exceptionnel. Au niveau du pelletage, on est vraiment épargné cet hiver, mais ça peut avoir des conséquences moins bonnes, moins intéressantes pour l'agriculture. En tout cas, c'était dans le Devoir d'hier. Dans aussi le Philosophie Magazine, qui est en kiosque, je vous en ai parlé, il y a un bel article de Donna Haraway. On va revenir avec Mme Haraway, elle s'intéresse entre autres à notre lien avec les animaux. Et les liens, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Elle parle de son lien, entre autres, elle, avec sa chienne, qui est vraiment beau à voir. La plupart des philosophes sont passés à côté de cette expérience. Je ne pense pas que tout le monde devrait avoir un chien, pas plus que je soutiendrais que tout le monde doit avoir un enfant. Je crois même qu'on devrait en avoir beaucoup moins. Mais l'expérience que nous faisons quand nous entrons dans le monde perceptif de l'animal est précieuse, ne fût-ce que parce que cela exige que nous apprenions à devenir autres, à mettre entre parenthèses notre moi, à penser autrement. À mes yeux, les espèces compagnes ne sont pas seulement les animaux de compagnie, mais toutes les espèces avec lesquelles nous pouvons entrer en accointance pour former une communauté plus qu'humaine, comme on dit dans l'écologie féministe. Cela peut être des oiseaux, des insectes, des plantes. Vivre avec les plus humains, c'est se débarrasser de l'exceptionnalisme, ce qui ne veut pas dire se débarrasser de la spécificité humaine. Nous croyons que nous sommes tous les mêmes. Nous avons des capacités spécifiques comme le langage, d'autres qui peuvent être partagées ou élargies avec les espèces compagnes. Et il s'agit d'entrer en contact non pas avec ce que nous avons en commun, mais avec ce qui est au-dessus ou au-delà de nos différences. C'est le sens du plus qu'humain. Cela passe par le travail et le jeu avec eux. En faisant cette expérience, nous approfondissons notre être dans le monde, notre existence écologique, notre habitation de la Terre, car ainsi, nous devenons capables de réagir dans l'action avec eux. Alors, c'est dans le Philosophie Magazine qui est en kiosque présentement, le dernier numéro. Alors, on prend une petite pause musicale, puis ensuite, je reviens avec les liens.
Yo, yo, yo. かしゃむさしのちょいとすすきの都今はネオンの今はネオンの日の都やっとなそれよいよいよいやっとなそれよいよい
C'était Maya Barou, B-A-R-O-U-H. La pièce était Tokyo Hondo de son album Aïda. Et c'est Maya Barou qui, comme je vous disais, qui donnait un spectacle gratuit là, au Grand Théâtre dimanche. C'est une franco-japonaise et c'est vraiment intéressant de voir le mélange occidentale, orientale. En tout cas, elle est supposée de revenir au Québec cet été. Alors, pour ceux qui s'intéressent. Bon. Le livre que je vais vous parler aujourd'hui, c'est le titre du livre, c'est « La puissance des liens ». C'est un collectif d'auteurs. Il y a Christophe André qui a souvent écrit sur le développement personnel, la méditation, la simplicité volontaire aussi. Abdennour Bidar, Fabienne Brugère, Boris Cyrulnik, Rebecca Shanklan et Mathieu Ricard. Alors, la puissance des liens. Et, c'est ça, il y a plusieurs. Chacun, il y a six sections. Chacun des auteurs écrit une section. Alors, commencer par l'intro. Là. Les êtres humains sont des animaux sociaux. Nos lointains ancêtres n'auraient pas pu vivre de façon solitaire sur une planète aussi hostile. La solidarité à l'intérieur du groupe pour trouver de la nourriture ou pour faire face aux dangers, la coopération, l'empathie, l'entraide, tout cela a permis aux premiers humains de survivre. Nous nous définissons fondamentalement comme des êtres de lien. À l'inverse, coupés des autres, nous avons le sentiment douloureux qu'il nous manque quelque chose d'essentiel, d'où ce sentiment de connexion profonde, de non-séparation, qui peut aller jusqu'à nous faire sentir comme ne faisant qu'un avec l'univers, comme le décrit si bien l'autrice anglaise Virginia Woolf. Il m'arrive parfois de penser que je suis les saisons, le mois de janvier, le mois de mai, le mois de novembre, que je fais partie de la boue, du brouillard et de l'aube. Et que Romain Rolland qualifie de sentiment océanique. C'est ce sentiment d'être un avec l'univers, uni avec le monde, finalement. Et c'est aussi, je pense, si on parle de notre problème de crise écologique, c'est probablement la principale raison, c'est qu'on est comme coupé du monde. Si on était vraiment coupé du monde, on sentirait la douleur de qu'on inflige là, à la planète actuellement. Alors, le premier texte, c'est « Devenir un tisserand de ce monde », Abdennour Bidar, figure intellectuelle de l'islam libéral, cet écrivain et philosophe, met inlassablement ses livres et son engagement au service d'une société plus fraternelle. Le philosophe commence toujours par clarifier le sens des mots. Ainsi, faste au vaste sujet de la puissance des liens, une question s'impose. De quels liens et de quelle puissance parle-t-on? Trois liens se distinguent, qui sont vitaux, essentiels à notre vie et à l'humanité, parce qu'à travers le canal de ces liens passe notre nourriture essentielle, le lien à soi, le lien aux autres et le lien à la nature. C'est ce que j'appelle le triple lien. La puissance de ces liens vient de ce qu'il nous relie à une source d'énergie supérieure, transcendante, Et si nous devons reprendre conscience aujourd'hui de leur force, de leur nécessité primordiale, de l'importance de leur bonne santé, c'est parce que nous sommes dans une situation de civilisation où leur ressource est devenue plus que jamais indispensable. Sans eux, nous resterons impuissants face à l'ampleur des défis et des désordres de notre temps, qui correspondent d'ailleurs à la rupture ou à la souffrance de tous ces liens. Les liens à soi, à l'autre, à la nature sont terriblement abîmés, de sorte que non seulement tout se désagrège, mais que nous-mêmes, privés de l'énergie des liens fondamentaux, nous n'arrivons plus à réparer le tissu déchiré du monde qui n'en finit plus de s'effilocher de toutes parts. Souffrance des liens et donc souffrance des sociétés, souffrance du vivant et misère de l'humain, tel est le résultat de toutes nos situations de séparation. Alors, c'est ça, les liens. Moi, c'est ce qu'on fait aussi, le comité de Saint-Petit volontaire, on fait des activités pour essayer de retisser des liens, en tout cas des liens, peut-être pas des liens permanents, mais quand on fait nos activités en cercle, le café philosophique ou des cercles de discussion, le but, c'est de recréer du tissu social, de la communauté. Et justement, le 27 février prochain, c'est pas mardi qui vient, mais le mardi suivant, aux Amis de la Terre, là, on aura un cercle de discussion sur les valeurs post-matérialistes. Justement, les valeurs post-matérialistes, c'est justement, entre autres, mettre plus d'importance aux liens, moins d'importance au matériel, comme Thoreau nous le disait en début d'émission. Une crise généralisée du lien. Nous vivons à ce point séparés, dissociés, divorcés de nous-mêmes, les uns des autres et du vivant, que nous avons désormais la plus importante, la plus urgente et la plus décisive des responsabilités collectives pour qu'émerge un futur pour l'humanité, en même temps une régénération de la Terre. Devenir des tisserandes et des tisserands qui, ensemble, vont réparer ces liens brisés, endommagés, et ainsi reconstituer le tissu déchiré du monde. Devenons ces tisserandes et ces tisserands qui, chacune et chacun à son échelle, à sa façon, selon le génie de nos personnalités et de nos différences, de nos différents collectifs, vont réparer de concert tout ce qui a été endommagé du lien à soi, du lien à l'autre et du lien à la nature. Comme on libère les eaux de rivières qui ne coulaient plus, comme on fait à nouveau circuler dans nos veines un sang qui ne passait plus. Nous traversons une situation de crise généralisée du lien, et cette crise du lien est la mère de toutes les crises, comme autrefois il existait une mère de toutes les batailles. Voilà pourquoi nous revenons aujourd'hui à la question du lien. Voilà pourquoi nous considérons que le combat pour renouer nos liens est essentiel. Muni de cette image du triple lien, fort de ce grand récit de la réparation du tissu déchiré du monde, empli par cette grande espérance et confiant à la puissance de nos liens retrouvés, nous pourrons, je l'espère, passer d'une civilisation de souffrance des liens à une civilisation heureuse et grandir en humanité, faire un saut d'humanisation, car à travers nos liens, c'est aussi l'énergie d'un éveil de conscience, d'un progrès d'être et d'esprit que nous recevons. Alors, il parle de nos séparations, les séparations avec la nature. Nous vivons séparés de la nature. C'est le premier lien déchiré que nous pouvons réparer dans le fil de la grande cause écologique. Mais actuellement, si nous cherchons à retrouver ce lien avec la nature, nous le faisons souvent de façon intellectuelle, rationnelle. On nous dit de sauver la planète, de trier nos déchets, de veiller à notre empreinte carbone, de moins consommer. Ce qui est sans doute nécessaire, mais qu'en est-il de l'éveil de notre sensibilité? Sommes-nous capables à nouveau d'entendre ou de sentir le sanglot de la terre qui pleure, comme disait Thich Nhat Hanh? Sommes-nous capables de recevoir en nous la puissance créatrice de la nature? Sommes-nous capables de contempler la grande harmonie du cosmos, d'inscrire notre action dans la sienne comme l'instrumentiste s'accorde à l'orchestre et d'y participer consciemment en faisant notre part de sa grande œuvre de beauté, d'ordre, de justice et de paix? La séparation avec autrui, l'autre lien à restaurer concerne autrui. Nous vivons dans des sociétés individualistes et communautaristes en guerre armée, économique ou culturelle, les uns contre les autres. Nous assistons à la multiguerre des multi-identités. Il suffit d'avoir une culture, une religion, une idéologie, quelle qu'elle soit, pour qu'aussitôt nous en faisons un motif d'exclusion de ceux qui n'appartiennent pas à notre groupe et que nous entrions en guerre vis-à-vis de celui qui n'a pas la même identité, pas la même culture, pas la même religion, pas la même idéologie. Et tout cela suppose, tout cela sur la base d'une séparation de plus en plus indécente entre les classes sociales, entre les riches et les pauvres, à l'intérieur de nos propres sociétés occidentales, évidemment à des échelles aggravées, planétaires, entre sociétés plus ou moins développées économiquement, et les appels à davantage d'humanité, de tolérance, de partage restent vains ou ne produisent que des résultats insuffisants parce que nos éducations n'ont pas du tout assez ouvert nos cœurs, pas assez éveillé en nous le sens de la fraternité universelle. Ensuite, il parle de la séparation avec soi. Le lien avec soi est aussi en souffrance et il est lui aussi à restaurer. Il s'agit de la relation qu'on en a avec son propre cœur, un cœur entendu au-delà même de la capacité de ressentir ou éprouver quelque chose comme un organe spirituel qui nous relie à l'infini, à l'infiniment grand, plus grand que soi, à ce qui est au-delà de l'espace et du temps, à l'origine de toute chose. Mais là encore, quelle éducation a trouvé son cœur recevez-nous? Qui nous apprend à vivre selon ce qui jaillit de ce cœur? Quel exercice spirituel pratiqué au quotidien peut libérer dans notre existence tout entière sa source de vie, d'amour et de puissance? Car le cœur n'est pas seulement un organisme, un organe physique sensible. Il nous relie à une profondeur à côté de laquelle la profondeur de l'univers lui-même n'est qu'une surface. Et du côté de cette profondeur, de cette origine, il y a une fontaine de miséricorde issue d'une source mystérieuse d'où surgissent l'univers et son harmonie. Mais laquelle de nos méditations nous apprend à creuser assez profond pour libérer son jaillissement? Nous vivons des existences qui, hélas, sont rarement alignées entre ce plus profond intérieur et l'extérieur, où l'eau fondamentale ne s'écoule pas dans nos cœurs, à nos pensées, jusqu'à nos actes, nos engagements, si sincères soient-ils. Nous ressentons dès lors une souffrance entre ce que nous sommes et ce que nous faisons, et nous remplissons ce vide avec des consommations extérieures. Nous souffrons aussi d'une société qui ne nous donne pas l'occasion, dans notre travail, de chercher, puis de libérer, d'engager la ressource de ce moi si profond, mais qui nous conditionne et nous condamne à ne vivre qu'en surface de nous-mêmes. Alors, c'est un extrait du livre « La puissance des liens ». Je vais poursuivre la semaine prochaine encore avec d'autres lectures de ce, d'autres extraits de ce livre-là. Mais parlant du lien avec le corps, au retour, on prend une pause musicale. Au retour, je reviens avec Toro, Yogi des Bois, que j'avais commencé la semaine dernière, qui est le yoga, qui est une façon de se relier nous-mêmes à notre propre corps. Keep pouring them from one red.
And now to sing this lovely bell. Here is Mama Cats.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me.
me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. That leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream.
De légèreté avec The Mamas and the Papas, un grand classique des années 60. Dream a little dream of me. Alors, on avait commencé la semaine dernière à aborder ce livre, très beau livre qui vient d'être publié aux éditions Équateur, Taureau Yogi des Bois par Colette Poggi, P-O-G-G-I. Je vous en présente quelques extraits pour terminer l'émission. Henri-David Thoreau, depuis son abri à l'écart des hommes et de la ville, avec pour seule compagnie les arbres, les bêtes et les ruisseaux, nous parle d'un bonheur ineffable. Il en parle si bien qu'il donnerait envie de le suivre au plus casanier des urbains. Né en 1817 à Concorde, près de Boston, tout prédestinait cet étudiant brillant à reprendre la direction de l'usine familiale. Pourtant, une intuition intime le guide vers une autre voie. La nature comme le chemin vers la connaissance de soi, la littérature orientale comme instrument d'optique pour contempler le monde, l'exploration de la réalité dans toutes ses dimensions, ciel, terre, faune et flore, et surtout l'union de soi-même avec l'univers. Ne suis-je pas moi-même en partie feuille, terreau, végétal, écrit-il en 1847, dans une histoire de moi-même, texte d'une conférence à laquelle l'origine de Walden ou la vie dans les bois. Il ne se pense séparé de rien. Pierre, oiseau, arbre, vent, tout est flux et reflux, tout est un, tout est symbole d'infini. À Walden, Thoreau laboure son champ pieds nus, se baigne dans l'étang en toute saison, comme pour mieux se mêler aux éléments, ne faire qu'un avec le vivant, vivre l'accord tacite avec l'ordre des choses, avec l'originel, éprouver l'unité du corps et de l'esprit, l'unité des éléments, terre, eau, feu, air, éther, serait lié au vivant animal, végétal et spirituel, à lier l'intérieur et l'extérieur, le microcosme et le macrocosme, ressentir ce par quoi je respire, je pense, j'imagine, je perçois, je fais retour sur moi. C'est le sens suprême du yoga. C'est ainsi que Thoreau appréhende l'existence et nous offre une nouvelle manière d'être au monde. Alors, la première partie du livre parle du yoga de la simplicité. Je vais vous lire quelques extraits de cette première partie-là. Réorienter son regard vers l'intérieur. Avoir le goût de la connaissance de soi, c'est déjà un pas de côté. Vouloir regarder le monde autrement que par les ornières des conventions, de la normalité qui uniformise. Quelle joyeuse perspective! La vie devient aventure, la grande aventure du « je suis », non pas du « moi-je ». C'est ainsi, pas à pas, que David Henry devient Henri David. En fait, c'est que... Henri David Thoreau s'appelait originalement David Henri Yeshua. Il a décidé d'inverser ses deux prénoms. Devint Henri David lorsqu'il prend la décision de s'installer à Walden. Se regardant dans le miroir de l'étang, il aspire à une transformation, à un retour à soi. Sensation après sensation, pensée après pensée, nous l'imaginons assis, le dos contre un arbre, dans une clairière où le chant des oiseaux se mêle au frémissement du vent. Il desserre ses vêtements, unit son dos au tronc de l'arbre. Quel bonheur de s'abandonner au naturel. Rien à prouver, être seulement, être là, juste s'asseoir, comme disent les moines zen, détendu. Peut-être se masse-t-il les mains, le visage, le ventre, les jambes. Il respire amplement, tendrement. Lorsque le corps et l'esprit s'accordent, émerge des profondeurs la dimension appelée corps de félicité, vibrant toujours là, mais oublié. Un sentiment de confiance en la vie universelle remonte alors à la surface. Cette notion de corps de félicité ou enveloppe faite de félicité, si ancienne, peut nous sauver de la détresse car nous sommes cela aussi. Elle est en nous comme une résonance originelle fondamentale. Elle fut mise en lumière vers le milieu du premier millénaire avant notre ère par les sages yogis des Upanishads qui trouvèrent refuge dans les forêts à l'écart du monde pour pratiquer la méditation et l'exercice du souffle. Être yogi, cela signifie chercher à se libérer des chaînes portées inconsciemment, souvent liées aux normes sociales, culturelles, à tous les conditionnements hérités des vies antérieures et cristallisés par le moi. En rebelle, Thoreau s'en éloigne et devient le pionnier des yogis aux États-Unis. Non pas un yogi au sens actuel, pratiquant des postures sur le tapis, mais yogi spirituel et philosophe. Au tout début de la ruée vers l'or, le vrai trésor pour Thoreau revêt les couleurs de l'amrita, l'ambroisie d'immortalité, symbole de libération spirituelle. En passant aussi, je pense que Thoreau pratiquait aussi le yoga, comme on dit là, le hatha yoga, les postures. Quoi qu'il en soit, Henri David demeure lucide et conscient de ses manques, c'est là sa grandeur. Étant donné ma rudesse et mon manque d'attention, je devrais pratiquer fidèlement le yoga, écrit-il à son ami Harrison Blake en 1849. Il a en effet opéré le retournement fondamental, regarder au-dedans. Il s'est extrait pour un temps du tohu-bohu de l'existence. Comment remonter à la surface de cette vague qui nous enlève, nous distrait, nous tire loin de nous-mêmes, nous emporte loin de la réalité? Il faut un certain courage, une grande énergie intérieure pour discerner et mettre en œuvre l'antidote que l'on nommera yoga au sens large, jonction à la vie. Alors, on prend une petite pause musicale, puis on va conclure l'émission après ça. C'est Hamlet Gonashvili, G-O-N-A-S-H-V-I-L-I. La pièce, c'est Orovela. C'est un chant de travail georgien. C'est des vieilles, très, très anciennes chansons traditionnelles de la Géorgie, au Moyen-Orient. Alors, je termine mon extrait de Toro Yogi des Bois qu'on va poursuivre encore la semaine prochaine. Tout cela est bien beau, mais après, que fait-il ce Yogi des Bois? Comment vit-il? Il travaille de ses mains et fait l'apologie du travail manuel, se risquant même à demander pourquoi les étudiants d'Harvard ne construisent pas leur logement de leurs mains. À ses yeux, le travail manuel, accompli avec joie, fait grand bien au corps comme à l'esprit. Il ne s'en prive pas. Il plante des haricots, maïs, pois, recueille le sirop d'érable, pétrit son pain, le cuit dans le four qu'il a construit, scie du bois et bien d'autres choses. Le travail artisanal, non distinct de l'art en Inde ancienne, est considéré comme une discipline yogique car il requiert attention, habileté, respect des matériaux et surtout une approche spirituelle en relation avec le cosmos et les énergies divines. Alors voilà, c'est terminé pour cette semaine. Bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine. On va poursuivre encore avec les liens et Toro Yogi des Bois.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
Québec Réveil, c'est l'émission matinale de CKIA et c'est moi, Philippe Arsenault, qui ai le bonheur de passer ce moment de la journée avec vous. Actualités locales, enjeux sociaux, culture, sport, politique, prenez le pouls de votre ville chaque matin en ma compagnie et celle de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Faites la connaissance de gens d'ici qui travaillent sur le terrain pour faire de Québec une ville plus juste et plus belle. Québec Réveil, du lundi au vendredi, dès 7h30.
Monde musicaux. Venez à la rencontre d'une personnalité qui vous fera partager sa pratique artistique ou culturelle et découvrir la musique au cœur de son identité. Rendez-vous à Monde musicaux avec Christine Borello tous les samedis à 18h sur les ondes de CKIA FM.
Thérèse, 92 ans. Elle a déjà eu ton âge et un jour peut-être tu auras le sien. Mais en attendant, elle a besoin de ton énergie, de ta douceur, de tes rires, de ta délicatesse, de toute ton humanité. Elle a besoin de quelqu'un pour prendre soin d'elle. Elle a besoin du meilleur de toi pour continuer à vivre sereinement. Inscris-toi pour devenir préposé aux bénéficiaires sur québec.ca/devenir-préposé. On a besoin du meilleur de toi. Un message du gouvernement du Québec.
Coupure budgétaire, mise à pied, réduction de services, travail précaire.